Orléans 88.3.
Le ciel est sans nuages. Si vous n'avez rien à faire, je vous propose une heure de musique.
T'en veux ? C'est de la bonne. La super bonne. Ouais.
Quoi ? Encore lui ?
Eh oui, depuis plus de 20 ans, T'en veux c'est de la bonne est à l'antenne de Radio Campus Orléans. L'émission à dominante pop-rock qui se joue des modes et qui vous balade allègrement des années 60
aux années 20.
Via une programmation éclectique d'une qualité unanimement reconnue par son animateur,
le dénommé Jean-Marc.
C'est pas pop ça, c'est pas in, c'est pas psychédélique.
T'en veux c'est de la bonne. C'est chaque lundi que Dieu fait de 20h à 21h en direct.
Les émissions passées sont disponibles sur le site orléans.radiocampus.org.
Et il y a même une page Facebook tout en couleur.
C'est la morale de ma chanson. Moi je la trouve chouette. Pas vous ? Ah bon ?
Bonsoir, c'est T'en veux, c'est de la bonne. C'est la 31e émission de la saison 2023-2024. Et histoire de me donner un petit défi, auparavant c'était l'émission du Saint-Disque, hein, on peut le dire, je vous offre ce soir une spéciale 1984 que je vous mijotais déjà depuis un certain temps. Et bon, comme d'habitude, il y aura sans doute une deuxième, voire une troisième édition. Ce soir, nous allons nous tourner essentiellement, uniquement même, employons le bon adverbe, vers la perfide Albion. Nous serons donc en Angleterre pour revoir un peu ce qui s'y passait en 1984. Et il s'y passait, ma foi, pas mal de choses. Par exemple, au niveau de The Cure, avec Pornography en 1982, The Cure avait été quand même assez loin dans un certain style, un style très sombre. Et donc Robert Smith, leader du groupe, chanteur, guitariste, etc., se disait que bon, ben là, de crainte de se répéter, il fallait quand même un peu se renouveler. Il y avait eu donc ensuite les singles dominés par les synthétiseurs que sont Let's Go To Bed et The Walk, et puis l'EP The Love Cats, où Smith admettait avoir voulu sonner comme un groupe de jazz parisien et faire un gros clin d'œil au dessin animé Les Aristochats. Tout cela avait été réunis sur l'album The Japanese Whispers, hein, sans déterminant, Japanese Whispers, donc sorti en 1983, que nous avions évidemment cité l'an dernier dans notre spécial, une de nos spéciales 1983. Et Smith aussi, qui côtoyait beaucoup les Banshees à l'époque, et Susie, donc, avait mené ce qu'on n'appelait pas encore un projet parallèle, avec le bassiste Steve Severin. Il s'agissait du groupe The Glove, qui publia un unique album intitulé Blue Sunshine, donc en 1983, épaulé par Janet Landray au chant et par le batteur Andy Anderson, le nouveau batteur de The Cure, Lol Tolhurst ayant dédaigné son instrument d'origine pour les claviers. Voilà, donc il s'agissait d'entreprendre un nouvel album de The Cure. Ce sera donc The Top, dont je dis à chaque fois que c'est un album malheureusement injustement méconnu. Voilà, un album assez pop. Une petite dédicace à Nono et à Caro, hein, pour l'occasion. Un disque d'ailleurs qui a été réédité à l'occasion du récent Disquer Day. Voilà, c'était samedi dernier. Bon, moi j'ai pas trouvé énormément de choses. Et puis bon, bah, c'est vraiment cher, quoi. Voilà. Enfin bon, je me suis quand même trouvé une compile. On y reviendra dans une émission prochaine. Voilà, une compilation psychédélique. Voilà, donc je dis toujours mes tics de langage. Voilà, donc on fait ce qu'on peut, les enfants, on fait ce qu'on peut. Voilà, moi aussi, il faudrait que je me renouvelle un petit peu. Et The Top est un album quand même nettement moins torturé que Pornography, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il y a quand même des choses assez sombres, comme Shake Dog Shake en ouverture, Give Me It, ou encore Wailing Wall, inspiré par un séjour que Smith avait fait avec les Banshees à Jérusalem. Mais c'est quand même plus, bon, bah, on peut le dire, hein, coloré, varié. Les arrangements sont assez diversifiés, les morceaux sont très différents les uns des autres. Et bon, vraiment, c'est vraiment pour moi du tout bon. Voilà un album que l'on peut rapprocher dans la discographie de The Cure, de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, qui sortira quelques années après. Allez, on commence donc tout de suite avec cet extrait de The Top qui est mon morceau favori de l'album. Shapes in the dream like Christ, Christ in the pale blue wall. I'm walking slowly and quickly, but always away. I'm twisting, twisting to the floor. Flowers in your mouth and the same dry song.
Dance back to the body.
The Cure, donc en 1984, avec The Top, tout d'abord Peggy in the Mirror, et ensuite le morceau qui suit sur cet album, Peggy in the Mirror, c'est-à-dire The Empty World. Mais la petite astuce, j'ai même pas fait exprès en fait à la base, c'est, bon ça il fallait pas le dire, c'est que c'est une version live de 1984 enregistrée à Londres et disponible sur la réédition de The Top en 2006, donc les fameuses éditions Deluxe en un seul mot. Tu as l'album original et tu as tout un scud de raretés, de démos, de versions alternatives, de versions live, enfin bon, c'est très 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 chouette. Voilà donc The Cure en 1984, donc comme je l'ai déjà dit, Andy Anderson sera le deuxième et bref batteur de The Cure, et c'est Phil Tonnelly qui, si je ne m'abuse, était ingénieur du son sur Pornography, qui occupe le poste de bassiste, sauf que sur The Top il n'est pas présent, puisqu'il est étant également ingénieur du son à cette époque-là, il enregistre un album de Duran Duran en Australie, et c'est donc Smith qui assurera les parties de basse sur The Top. Voilà, tous les deux ne font qu'un passage éclair par The Cure. Tonali sera ensuite remplacé par Gallup, qui fera donc son retour, et Andy Anderson le sera quant à lui par Boris Williams. Pardon, veuillez m'excuser. Alors, donc, plein d'activités pour The Cure et pour Robert Smith à l'époque. The Cure qui publie en cette même année son premier album live intitulé tout simplement Concert The Cure Live.
I'm losing faces.
Voilà, Robert Smith en deux étapes. Tout d'abord, donc Charlotte Sometimes, un morceau sorti à l'origine en 45 tours entre Fate et Pornography, et dont c'était la première version disponible sur un album. C'était donc Concert The Cure Live, Radio Campus Orléans 88.3. Vous écoutez Tant veut, c'est de la bonne, spéciale 1984. Un petit clin d'œil à Étienne, grand amateur d'années 80, qui anime Brand Control. Et bah, Smith est vraiment hyper actif à cette époque-là, puisqu'il a aussi été intégré brièvement, mais quand même, au sein des Banshees en tant que guitariste, groupe qu'il avait déjà accompagné quelques années auparavant. C'était une tournée où Suzy faisait la première partie de The Cure et Smith cumulait les deux concerts, ce que j'avais lu. Voilà donc Robert Smith qui enregistrera un album avec Suzy and the Banshees, Yena, sorti donc lui aussi en 1984. Vous avez écouté le morceau d'ouverture, Diesel. Ce sera, bah oui, pas de parité encore cette fois-ci, la seule voix féminine de ce soir. Et à l'occasion, une petite pensée à Bérangère qui, j'espère, a bien trouvé la fréquence et m'écoute attentivement. On continue maintenant avec Echo and the Bunnymen qui sortent cette année-là l'album Ocean Rain, et le morceau que je vous propose est vraiment très connu, mais bon, il est tellement excellent, tellement inusable que je ne m'en lasse pas. Voilà, un peu comme Charlotte Sometimes dans cette version live qui est, je l'avoue, ma version préférée et mon morceau préféré de The Cure. Allez, bah oui, on est parti pour The Killing Moon, bien sûr. Et quand The Bunnymen dans Tant Veux, c'est la bonne, spécial 1984.
yourself to
chez Consort. C'était donc Echo and the Bunny Man avec The Killing Moon, tiré de l'album Ocean Rain, sorti en 1984, puisque ce soir, si vous venez seulement de nous rejoindre, je vous spécifie que c'est une spéciale 1984 dans T'en veux, c'est de la bonne pour la 31e émission de la saison. Un truc qui m'est apparu au fur et à mesure de la préparation de cette émission, c'est que les morceaux que j'ai sélectionnés, l'homosexualité est en fait assez présente. Hein. Pas forcément directement dans les morceaux, mais parce que certains des musiciens le sont, parce que ce thème ressort quand même. Et bon, on peut constater que c'est une bonne chose qu'à cette époque-là, l'homosexualité commence vraiment à sortir du bois, si on peut dire. Ce qu'on peut regretter, par contre, c'est que cela s'est fait aussi, cela a été aussi en partie lié avec l'épidémie de sida. Voilà, oui. Déjà, le sida, à l'époque, il y a 40 ans, fait des ravages, particulièrement dans la communauté homosexuelle. Voilà. Et rappelons-le, hein, 40 ans après, il n'y a toujours pas de remède au sida, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, faites bien attention et faites attention à votre partenaire aussi. Hein. Voilà. Et on retrouve donc cette idée à travers d'homosexualité dans les Smiths. Voilà, les Smiths qui ont sorti en 83 plusieurs 45 tours et qui sortent leur premier album sans titre, avec en couverture une photo torse nu de Joe D'Alessandro. Alors, je me rappelle que dans une interview, Morrissey avait dit que c'était en réaction contre les années 60 et 70, où l'image de la femme avait été hyper exploitée sur les pochettes de disques. C'était pas faux, mais bon, je pense qu'il y a aussi ces goûts personnels qui ont joué là-dedans. Voilà. Et donc, c'est pas un album avec un super son, mais bon, c'est l'album fondateur de la trop brève et remarquable carrière des Smiths. Hein. Et on va s'écouter un morceau qui parle d'hétérosexualité, mais d'une manière assez désabusée. J'avoue que c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé. Parfois, il m'arrive d'être très, très amer et je me retrouve dans certaines des paroles, même si certains pourraient les qualifier d'un peu misogynes. En fait, dans ce morceau, Morrissey intervertit les rôles habituels. Hein. Des fois, c'est le garçon qui pousse la fille, qui veut absolument coucher avec elle. Elle hésite et tout, et lui insiste. Et là, c'est le contraire. C'est la fille qui pousse le garçon à aller au-delà de ce qu'il veut. elle est trop brutale et je suis trop délicat. Et puis finalement, elle laisse tomber pour un autre. Et ça se termine de manière assez amère et assez grinçante. Un sourire stupide a illuminé son visage. Et c'est ainsi que j'ai perdu ma foi dans la féminité. Bon, c'est sans doute un peu radical et un peu définitif, mais bon, il peut arriver qu'on se reconnaisse dans une certaine amertume et une certaine mauvaise foi.
Up on the sand, up on the bay, there is a quick and easy way, you say, before you illustrate, I'd rather.
Voilà, c'était précisément un sourire illumina son visage stupide. C'était Pretty Girls Make Graves, tiré du premier album sans titre des Smiths. Et les Smiths, cette année-là, publient même un deuxième album, celui grâce auquel je les ai découverts au temps du lycée. Merci Pierre, merci encore. Atful Ovolo, il ne s'agit pas exactement d'un album original, hein. La plupart des morceaux de The Smiths y sont repris, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, ce qui fait que c'est aussi un maillon indispensable pour tous les amateurs des Smiths. Il s'agit d'Atful Ovolo, qui est en fait un album constitué de sessions enregistrées pour la BBC, et il y a vraiment, c'est vraiment une mine là aussi. On s'écoute un autre classique des Smiths.
Ask me why.
c'est Johnny Marr qui est à l'harmonica. Est-ce que c'est le corps qui dirige l'esprit ou l'esprit qui dirige le corps? Vaste question, question éternelle. C'était donc les Smiths avec Still Ill, tiré de l'album At Full of Low, autrement dit Haine du vide. Et bon, bah, il n'y a pas que la musique, puisqu'on est en 1984 pour cette heure-ci. Il y a aussi le cinéma. Bah, il y a pas mal de choses qui sortent cette année. J'ai découvert que je me suis rendu compte que les morceaux que je diffusais étaient souvent assez mélancoliques. Il y a pas mal de films assez sombres, assez mélancoliques aussi qui sortent cette année-là. Il y a aussi des séries qui sont initiées ou qui poursuivent, par exemple avec la première apparition de Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, ou encore Terminator avec Schwarzy, bien entendu, film de James Cameron. Citons aussi Gremlins, Greystoke, la légende de Tarzan, qui révéla Christophe Lambert dans un de ses meilleurs rôles. La deuxième aventure d'Indiana Jones, Le Temple Maudit, pour lequel Spielberg a depuis manifesté des réserves, parce qu'il le trouvait vraiment trop violent, et c'est vrai que c'est quand même des fois assez rude. Et encore, L'Histoire sans fin et le premier SOS Fantôme, oui, dont un nouvel épisode vient de sortir récemment. Rusty James de Francis Ford Coppola, qui va faire cette année son retour à Cannes. Le remake de Scarface, qui pour beaucoup de gens est la seule version de Scarface, mais non, il y en avait eu aussi une version par Howard Hawks dans les années 30, 1932 il me semble, dans le genre série aussi. Emmanuel 4. Dead Zone de David Cronenberg à la poursuite du diamant vert. Il était une fois en Amérique, qui sera malheureusement le dernier film de Sergio Leone et sur la BO duquel nous reviendrons dans une prochaine spéciale 1984, pas dans l'immédiat, mais ça viendra. Également Amadeus de Milos Forman, immense succès. L'étoffe des héros ou encore Les Ripoux, et il y aura de suite d'ailleurs Ripoux, encore une série. Quoi d'autre encore? Eh bien César pour Coluche dans le rôle du meilleur acteur. César du meilleur acteur pour son rôle dans Ciao Pantin, et Richard Anconina également pour Ciao Pantin, César du meilleur espoir masculin. Alors Harry Dean Stanton est complètement paumé dans ce film, errant, perdu, marchant dans le désert, mais le film lui ne perd rien. Le film de Wim Wenders, Paris Texas, décroche quant à lui la Palme d'Or à Cannes, et beaucoup de monde qui va au cinéma, et le meilleur nombre d'entrées en salle sera réalisé pas par Indiana Jones et le Temple Maudit, pas par Les Ripoux, mais par Marche à l'ombre, le premier film réalisé par Michel Blanc, qui selon Wikipédia aura cette année-là plus de 6 millions d'entrées. Et oui. On va revenir maintenant à la musique avec des garçons qui ont joué aussi avec l'imagerie gay, mais qui, à ma connaissance, étaient tous hétéros. Il s'agit de Depeche Mode. Depeche Mode qui sort cette année-là l'album Some Great Reward, dont je vous propose, j'ose en répandre, des rumeurs blasphématoires. Blasphemous Rumors dans Tant veux, c'est de la bonne, spéciale 1984, Depeche Mode.
I don't want to start any blasphemous rumors, but I think that
C'était donc Depeche Mode avec Blasphemous Rumor tiré de l'album Some Great Reward. Mais pour ma part, n'ayant pas cet album, j'ai trouvé le morceau sur la compilation des singles qui va de 1980 à 1985. Compilation assez savoureuse puisque sur la pochette intérieure, en regard des différents singles, sont publiées des critiques, y compris les plus désastreuses, parues à l'époque dans la presse à propos de ces différents singles. Nous étions dans le cinéma, signalons aussi les disparitions en 1984 de Johnny Weissmuller, Richard Burton, Sam Peckinpah, François Truffaut et Pascal Augier. Et au niveau géopolitique, bon, bah, c'était pas le pied forcément non plus à cette époque-là. Il y avait la guerre au Liban, il y avait la guerre en Afghanistan, il y avait sans doute la guerre encore ailleurs. Et au niveau de la direction des États, Margaret Thatcher était à la Maison Blanche, Ronald Reagan au 10 Downing Street, à moins que ce ne soit le contraire, et François Mitterrand était à l'Élysée. On était encore dans la guerre froide et on avait toujours les chocottes qu'un jour une bombe atomique nous tombe sur le coin de la tronche. Je sais, je l'ai vécu 1984, je peux vous le dire. Cet affrontement va être tourné en dérision inquiète dans le morceau prochain. J'ai oublié de parler de l'URSS, hein. Brejnev avait cassé sa pipe quelque temps auparavant, lui avait succédé Yuri Andropov qui meurt à son tour en 1984 et sera remplacé brièvement par Konstantin Tchernenko qui lui non plus ne tardera pas à quitter le pouvoir les pieds en avant. Voilà, c'est la valse des vieillards en URSS et l'affrontement Est-Ouest donc se retrouve au cœur d'un morceau intitulé ironiquement Two Tribes, deux tribus quand deux tribus vont en guerre, de Frankie Goes to Hollywood. Le groupe de Liverpool et non pas de Hollywood sort cette année-là son premier album Welcome to the Pleasure Dome avec, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, deux chanteurs, Holly Johnson et Paul Rutherford, qui s'affirment en tant que gay. Voilà. Mais en dehors d'Holly Johnson, en fait, aucun musicien, semble-t-il, n'a joué une note sur cet album qui est vraiment l'œuvre du producteur Trevor Horn, voilà, qui a mis ses musiciens à l'œuvre sur ces morceaux et un peu confisquer l'album. Bon, c'est un petit peu gênant, mais bon, il en résulte quand même un disque tout à fait étonnant, très varié, un double album excessivement riche. Voilà, Welcome to the Pleasure Dome. Frankie Goes to Hollywood sortira un deuxième disque par la suite du nom de sa ville natale, Liverpool, et puis bon, bah, splittera. Voilà. Et pourquoi ce titre, ce nom plutôt, Frankie Goes to Hollywood? Eh bien, il était tiré d'un article de journal qui annonçait bien auparavant les débuts à Hollywood de Frank Sinatra, donc Frankie Goes to Hollywood. Mais donc nous, pour le moment, on n'écoute pas Sinatra et on revient donc à Two Tribes. Hollywood avec Two Tribes, sorti en 1984 sur l'album Welcome to the Pleasure Dome. J'ai beau avoir restreint ma playlist, étant donné qu'il y avait quand même des morceaux assez longs, bon bah je vais pas pouvoir tout boucler. Bah, y avait encore du Queen, hein, on parlait de vivre son homosexualité. Il y a I Want to Break Free. Bon bah ce sera pour la prochaine édition, pour la prochaine spéciale 1984, quand je ne sais pas, mais ça viendra. Et bon, on a encore un morceau pour conclure, mais avant cela, je tiens à remercier Pierre, Charlie et Odile pour leur rôle d'initiateur, initiatrice pour certains des albums diffusés ce soir. La semaine prochaine, donc, pas de T'en veux, c'est la bonne, puisque je serai en vacances bien loin d'ici. On se retrouve donc dans deux semaines avec une émission sans doute fort éclectique. Voilà, donc le thème dont je vous parlais... Cette difficulté à être gay au début des années 80, en plus dans une petite ville, on le retrouve en plein dans un grand classique, hein, le Small Town Boy de Bronski Beat, hein, avec Jimmy Somerville au chant qui fondera par la suite les Communards, donc l'histoire de ce garçon qui est rejeté par sa famille, qui tente de s'affirmer, mais se heurte à l'incompréhension, voire à l'hostilité et à la violence. Voilà, donc c'est un morceau certes très connu, connu, mais 40 ans après, je pense qu'il n'a rien perdu de sa force. Et bon, c'est pas toujours facile de s'assumer en tant que tel, même en 2024 en France et encore plus dans d'autres pays, j'imagine. Bronski Beat, Small Town Boy, dans T'en veux, c'est la bonne, spéciale 1984.